Notre série sur l'Église. Alors, on a vu qu'on avait divisé l'Église, la série en 7 sermons. Je vais vous redonner un petit peu le plan que je m'étais donné pour amener en gros. C'est sûr qu'on ne pourra pas aller en profondeur dans l'ensemble des doctrines, mais quand même. Dans le sermon 1, c'est celui de la semaine dernière, nous avions étudié l'Église, sa nature. Qu'est-ce qu'elle était? Ses marques. Donc, elle a certaines marques en caractéristiques particulières et elle avait des buts. On a ce qu'on a vu dans la leçon précédente. Si jamais il y en a qui veulent la leçon, elle est déjà enregistrée, elle est déjà sur le site web. Vous pouvez la télécharger et l'écouter. Vous avez même les notes que vous pouvez étudier. Aujourd'hui, on va voir le deuxième sermon, l'Église, sa pureté et son unité. Dans les leçons qui vont suivre, on va voir la troisième leçon, l'Église, sa puissance. Quatrième, l'Église, son gouvernement. La cinquième, l'Église et les moyens de grâce. La sixième, l'Église, le baptême, signe de l'entrée dans la vie chrétienne. Et le septième va être l'Église, la scène ou le repas du Seigneur, qu'on appelle le signe du renouvellement de notre communion avec Christ. Donc, on sait tous, quand on parle de la pureté de l'Église, il n'y a aucune Église sur la terre qui est entièrement et absolument pure. Il y en a qui sont plus ou moins purs que d'autres. Alors, ça, c'est bien important de saisir ça dès le début. Alors, il existe aussi ce qu'on appelle des fausses églises. Alors, certaines doctrines, par exemple, une église qui prêcherait que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est sûr qu'elle est fausse parce que là, elle enseigne quelque chose de tellement fondamental qu'on se doit de rejeter des enseignements d'une église comme cela. Alors, normalement, une église, ça devrait être composé de croyants régénérés par le Saint-Esprit. C'est ce qui fait sa pureté. Plus il va y avoir de personnes véritablement régénérées dans l'Église, plus normalement l'Église devrait être pure, mais il n'y a pas seulement comment que l'Église sera composée uniquement de personnes nées de nouveau. Il y a aussi la question de la marche, notre sanctification, notre degré d'engagement dans la marche chrétienne qui fait en sorte qu'une Église est plus ou moins pure. Quand on étudie les épîtres de Paul, par exemple, on se rend compte que certaines églises, par exemple celle des Philippiens, celle des Thessaloniciens, Paul les recommande comme étant des modèles. Alors, ça lui procurait beaucoup de joie et ces églises-là ne présentaient pas de problèmes moraux ou doctrinaux majeurs. En revanche, il y avait toujours toutes sortes de problèmes doctrinaux et moraux sérieux dans les églises de la Galatie. Quand vous lisez l'Épître aux Galates, vous voyez que Paul fait des reproches sérieux aux Galates concernant certaines choses qu'ils avaient adoptées, certaines croyances qu'ils avaient adoptées qui étaient fausses. Et comme on dit en québécois, il leur a brassé la cage un peu parce qu'il avait besoin d'être brassé. Une autre église qui avait des problèmes moraux et doctrinaux dans les Écritures, c'est celle de 1 Corinthiens. Quand vous lisez 1 Corinthiens, vous voyez que dans l'église de Corinthe, il y avait toutes sortes de problèmes. Alors, c'est tout simplement pour illustrer que dans les différentes églises locales, il y a des églises qui sont plus ou moins pures. Alors, on pourrait commencer par définir par qu'est-ce que c'est la pureté dans une église. Nous pourrions définir la pureté de l'église à la manière suivante. La pureté de l'église est son degré d'affranchissement à l'égard d'une doctrine et d'une conduite erronée. Donc, c'est plus on s'éloigne de ce qui est faux, on est pur. Et aussi son degré de conformité à la volonté révélée de Dieu dans les Saintes Écritures pour l'Église. Donc, c'est un éloignement de l'erreur et une combinaison avec une conformité à ce que les Écritures enseignent. Donc, plus on s'éloigne de l'erreur, plus on se conforme à ce que les Saintes Écritures nous enseignent, plus l'Église est pure dans son ensemble. Donc, on a vu que ça comprend deux éléments, l'affranchissement, qui est l'éloignement et l'abandon de toute doctrine et de toute conduite qui comprend des erreurs. La conformité, c'est l'ajustement de toutes nos manières de penser et d'agir par la plus complète et parfaite soumission à la parole de Dieu dans ses 66 livres pour toutes les choses concernant l'organisation et la bonne marche de l'Église. Bien sûr, si on a quelque chose qu'on se demande, la réponse est toujours là-dedans. Alors, on se doit de se conformer à ce que les Écritures enseignent, puis on se doit à s'éloigner de tout ce que les Écritures nous disent qui sont des erreurs. Alors, ça, c'est la définition. Maintenant, le deuxième point qu'on va regarder, c'est la pureté, ses signes. Comment on peut savoir qu'une Église est plus ou moins pure? Alors, parmi les facteurs qui contribuent à rendre une Église plus pure, figure, premièrement, une doctrine biblique ou la parole de Dieu purement prêchée. Quand on va dans une Église et que la centralité du culte est dans l'enseignement de la parole de Dieu, vous avez des chances d'avoir une Église qui est plus pure qu'un autre, que la prédication de la parole de Dieu devient accessoire et devient, c'est presque pas important. Alors, dans les églises baptistes réformées, vous allez dans n'importe quelle baptiste église réformée du Québec actuellement, et le culte est toujours centré sur la parole de Dieu. On passe plus de temps dans la parole de Dieu que dans toute autre chose qu'on fait. Et c'est important aussi parce que Dieu, c'est ce qu'il veut qu'on fasse. Donc, Acte 20, versets 26 et 27 nous dit « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » C'est Paul qui parle. Il parle à des anciens, il parle à une église, il leur dit « Depuis que je suis le pasteur, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par tout le conseil de Dieu? Est-ce qu'on pourrait, dans une église, dire « Ok, je vais prêcher juste sur le Nouveau Testament. » Ou on pourrait dire « Est-ce que je peux prêcher juste sur l'Ancien Testament? » Tout le conseil de Dieu, ça veut dire tout ce que la Bible enseigne à partir du premier verset de la Genèse, aller jusqu'au dernier de l'Apocalypse. Tout le conseil de Dieu, c'est ça. On ne se doit pas d'éliminer ou de négliger un aspect ou un autre de la parole de Dieu. L'habitude qu'on a dans cette Église, c'est de prêcher ce qu'on appelle expositionnellement. Non, expositionnel, ça veut tout simplement dire qu'on prend un texte, comme on avait l'habitude qu'on était dans Hébreu, là, et on prend Hébreu à partir du début, puis on le suit jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'expliquer des points que parfois vous avez pu l'avoir lu, puis que vous n'avez pas nécessairement compris. Ça fait en sorte que, en faisant ça de façon systématique avec tous les livres, et à l'année, et durant la durée de vie de l'Église, ça fait en sorte que les chrétiens, normalement, vont rencontrer toutes sortes de problèmes doctrinaux, qu'est-ce que Dieu en pense sur telle chose. Alors, c'est important de le faire, d'avoir une doctrine biblique. Colossiens 3:16 nous dit également « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. » Ils ne nous disent pas que la parole, parlez-vous un, deux, trois versets au début, puis après ça, oubliez ça. Habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Vous, la parole nous dit qu'on se devrait de continuellement, comme on a fait tantôt, chanter des hymnes à Dieu, exprimer notre joie de lui appartenir et tout ce qu'il a fait pour nous, la grâce, et c'est bien important de le faire. Mais il faut cependant que la parole de Dieu soit centrale dans tous nos cultes et dans toutes nos pensées, nos paroles et nos actions. Je ne pense pas qu'on ait de doute là-dessus. Quand on est un chrétien, on comprend que notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon de réagir à quoi que ce soit qui va nous arriver dans la vie, se doit d'être conforme à la parole de Dieu. Donc, premier signe de pureté, une doctrine biblique. On embarque dans la Bible, puis on la suit d'un couvert à l'autre. Deuxième signe, un usage régulier et biblique des ordonnances du baptême et de la scène. On sait qu'il y a deux ordonnances que le Seigneur lui-même a instituées dans les Saintes Écritures. Il y a le repas du Seigneur et il y a le baptême. Normalement, le baptême se fait quand on a dit notre foi à Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. On demande d'être baptisé publiquement. C'est une façon de témoigner que vous croyez véritablement en Jésus et que vous le dites véritablement. Et on a vu tantôt que c'était un rite d'entrée dans l'Église. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas été baptisé encore, que vous n'êtes pas encore dans l'Église. Vous êtes dans l'Église, mais c'est le signe, un des signes que le Seigneur demande d'obéir pour que c'est lui-même qui l'a demandé. C'est pas une invention des hommes qu'on décide de faire ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Dans Matthieu 28, 19, on parle ici de baptême des croyants parce que Jésus nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est Jésus lui-même qui parle quand il est venu sur la terre. Dans 1 Corinthiens 11, versets 23-26, là on voit l'autre aspect de l'institution du repas du Seigneur, ou ce qu'on appelle la scène. Alors ça nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Il veut qu'on fasse cela pour se commémorer, pour se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Et après, le verset 25, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Première chose, la parole de Dieu pour la pureté de l'Église. Deuxième chose, l'obéissance à ses ordonnances. Ordonne, ça veut dire ordonnance, ça veut dire qu'il doit ordonner qu'on fasse ces choses-là. Donc, si on veut être dans l'obéissance, il faut les faire. Le troisième, un exercice de la discipline des membres. Est-ce qu'on peut vivre une vie chrétienne, être plusieurs personnes dans une assemblée, et qu'on pourrait laisser faire quelqu'un qui vit de façon ouverte et publique dans le péché? La Bible nous demande, à ce moment-là, de faire la discipline. La discipline, c'est simplement une façon d'exclure ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu de façon rebelle, de façon qui dure, et qui, bien souvent, c'est des péchés publics. Et le Seigneur nous demande de le faire parce qu'il nous dit « un peu de levain fait lever toute la pâte ». Il est en train de dire que si vous gardez le mal au milieu de vous, que vous ne faites pas quelque chose pour l'exclure du milieu de vous, ça va faire exactement le même effet que quand on met du levain dans la pâte, ça fait lever la pâte. Ça se répercute chez les autres, ça influence les autres et ça donne des exemples, un mauvais exemple. Supposons que, je ne sais pas, mais disons que quelqu'un se dirait chrétien, puis à tous les samedis soirs, il s'en va dans un club de danseuses, puis il s'enivre au point que tout le monde le voit dans Rouen, puis le dimanche matin, il vient ici. Puis il fait de façon régulière, puis après l'avoir averti, il continue de le faire. Et après l'avoir averti de la manière dont la Bible nous dit de l'avertir, d'abord tu y vas seul, tu essaies de le reprendre, il dit « s'il se repent, ok, s'il ne veut pas, vas-y avec deux autres membres », ça nous dit dans Matthieu 18, « et s'il ne veut pas, dis-le devant l'Église de manière à l'exclure de votre milieu parce qu'il est en train, parce que si tu le tolères, il y en a un autre qui va arriver, il va faire la même chose, il va dire « ben, pas pire que lui ». Alors, quand le Seigneur dit « un peu de levain fait lever toute la pâte », c'est pour ça que l'exercice de la discipline dans une église se doit de se faire, parce que si on ne la fait pas, on va aboutir par un très grand affaiblissement de l'Église de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 et 7, et dans le verset 11 et 13, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Voyez-vous, dans les Écritures, le levain est souvent un symbole du mal. Bien sûr, si tu le tolères, tu sais, c'est pas qu'après qu'on est chrétien, on ne peut pas pécher. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Tu es en train de dire des péchés graves, des péchés à répétition, les personnes qui demeureraient volontairement et s'entêteraient dans un péché connu et public, qui finirait par avoir une très mauvaise influence et un mauvais témoignage aussi de notre Église à cause de son comportement. Dans le verset 11, ça dit « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. » Oui, c'est pas moi qui l'invente, là, c'est la parole même qui le dit. Alors, ça dit en verset 12, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Par ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. » Souvent, on va entendre l'expression, quand on parle de choses comme ça, et il y en a qui vont dire, « Oui, mais Dieu dit de ne pas juger. » Oui, c'est vrai. Dieu, Jésus, quand il est venu sur la terre, nous a dit de ne pas juger. Dans quel sens qu'il le dit? Il faut regarder le contexte. Il le dit dans le sens que je ne peux pas dire de quelqu'un s'il est sauvé ou s'il n'est pas sauvé avec une certitude absolue. Je ne peux pas le dire de moi-même, puis je ne peux pas le dire de vous non plus. Parce qu'il y a seulement Dieu qui le sait avec certitude absolue. Si je dis ça, je juge, je suis en train de dire que je juge sur que je connais sa destinée éternelle sans connaître l'état de son cœur, je le sais pas. Je ne peux pas dire ça. C'est dans ce sens-là que les Écritures disent de ne pas juger. Mais Paul, ici, il nous dit de juger ceux qui font du mal à l'intérieur de l'Église. Puis il dit bien qu'ils se nomment frères. Donc, ils se disent frères, cupides, impudiques, on sait c'est quoi, le péché de la chair, idolâtres, outrageux, ivrognes ou ravisseurs. Puis il dit même pas manger avec un homme comme ça. Alors, il y a beaucoup de versets, alors on ne fera pas une étude sur la discipline ce matin, là, mais c'est quelque chose qui se doit de se faire dans une église locale, sinon l'église locale perd beaucoup de sa force. Et quatrième chose, qu'on était rendu, quatrième signe, donc on a vu doctrine biblique, usage régulier des ordonnances du Seigneur, troisième, exercice de la discipline des membres, quatrième, un culte authentique encadré par le principe régulateur. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça, un principe régulateur? Le principe de cette doctrine consiste à ce que seuls les éléments qui sont institués ou nommés expressément par ordre ou exemple dans la Bible sont admis à faire partie du culte. En d'autres mots, elle enseigne que Dieu a institué dans les Écritures de façon précise tout ce qu'il exige pour le culte au sein de l'Église. Tout autre élément est prohibé. Autrement dit, c'est que pour organiser un culte, voyez-vous, tout à l'heure, on a chanté, on a prié, on étudie la parole de Dieu. Toutes ces choses-là sont dans les Écritures. Mais à partir du moment où que vous commencez à faire d'un culte, on pourrait dire du show business, aux États-Unis, malheureusement, il y a des grosses églises que les cultes sont rendus presque du show business. À ce moment-là, c'est que le principe régulateur, ça veut dire qu'on régule, on ajuste notre comportement dans notre culte à Dieu en fonction de ce que les Écritures nous disent, de ce que ça devrait être un culte à Dieu. Sinon, on part dans toutes sortes de directions et on pourrait vous donner des exemples là, qui sont assez... Moi, en tout cas, personnellement... Il y a deux écoles de pensée. Nous, on a adopté ce qu'on appelle le principe régulateur. On croit que les Écritures nous enseignent qu'un culte à Dieu se doit de se faire avec des critères précis que Dieu ou Jésus lui-même a donné. Il nous a dit de prier, il nous a dit de chanter des cantiques, on l'a lu tantôt, il nous a dit que la parole de Dieu habite abondamment, il nous a dit de faire la discipline, il nous a dit de faire les ordonnances. Alors, notre culte, notre façon d'agir est encadrée, est régulée, c'est pour ça qu'on l'appelle régulateur, par la Bible elle-même. Mais il y a ce qu'il appelle aussi, ce qu'on appelle le principe normatif du culte. Eux disent que tout ce qui n'est pas interdit dans la Bible est autorisé par le culte, tant que ça favorise la paix et l'unité de l'Église. En clair, selon le principe normatif, pour qu'un élément fasse partie du culte, il doit seulement être conforme à la pratique générale du culte de l'Église et ne doit pas être interdit dans l'Écriture sainte. Si on s'en va dans cette direction-là, c'est de valeur qu'on ne puisse pas prendre du temps pour tout illustrer dans des exemples précis, parce qu'il existe des vidéos sur Internet, où on pourrait voir ce que ça a l'air d'une église qui est régulée, puis une église qui ne l'est pas. Ça part dans toutes les directions. On ne pourra pas rentrer dans les détails ce matin, là, mais normalement, les églises réformées baptistes de Arbka aux États-Unis, toutes les églises Arbka ont le même principe, le régulateur. On fait le culte de la manière dont Dieu nous demande de le faire. Et si on embarque, on inclut n'importe quoi dans un culte, à ce moment-là, on risque de s'égarer. Cinquième élément, une prière régulière et efficace. Est-ce qu'on pourrait s'assembler comme chrétien et ne jamais prier? Non. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il y en a beaucoup d'autres versets. Je vous donne toujours des versets représentatifs, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Je pense que les Écritures donnent des centaines de versets qui nous parlent de la nécessité de prier. Qui nous dit 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse ». Puis, les Écritures, non seulement nous disent de prier, mais nous disent pourquoi prier, pour qui prier. Par exemple, les Écritures nous disent que nous nous devons de prier pour nos gouvernements. Je n'irai pas voir tous les versets, là, mais je peux vous le prouver. Pour de nouveaux ouvriers dans la moisson, donc pour de nouveaux pasteurs, de nouveaux missionnaires, de nouveaux serviteurs de Dieu. De prier pour les conducteurs. Ça veut dire prier pour Jean, prier pour moi. Est-ce que, comme chrétien, on n'a pas toujours ce réflexe-là de penser qu'il faut prier pour les conducteurs? Dites-vous une chose, quand Dieu permet que quelqu'un devienne un enseignant, il devient automatiquement la cible du malin plus que n'importe quel autre chrétien. Parce que le malin cherche à le faire tomber. Le malin cherche à amener des pièges dans sa vie pour le faire chuter. Parce qu'il sait très bien que si les dirigeants chutent, ça va amener, comme ça dit dans les Écritures, quand le berger n'est plus là, le troupeau se disperse. Alors, c'est important qu'à tous les jours, quand vous y pensez, de prier pour la sanctification de vos conducteurs. Ça nous dit aussi de prier les uns pour les autres. On a une liste qu'on vous a passée des membres actuellement, des membres ou des personnes qui ne sont pas encore membres, mais qui sont des personnes qui viennent régulièrement à l'Église. C'est pas une mauvaise idée. C'est plus que pas une mauvaise idée. La parole nous dit de le faire, de prier les uns pour les autres. Ça veut dire, vous prenez votre liste, facile, regardez les noms, puis vous priez, un par un. Puis plus vous allez connaître les personnes, plus vous allez pouvoir prier de façon intelligente pour une personne. Parce que c'est sûr que le premier dimanche que je suis arrivé ici, que je ne vous connaissais pas, je ne pouvais pas prier de la même manière que je peux prier maintenant. Parce qu'avec le temps, on apprend à se connaître, on apprend à connaître les difficultés des autres, on apprend à connaître leurs expériences de vie passée, on apprend à connaître un peu ce qu'ils vivent présentement et qu'est-ce qu'on peut faire. Le Seigneur nous dit de prier pour les uns pour les autres. Je ne fais pas juste nommer un nom, puis dire, Seigneur, je prie pour elle. Et je prie pour elle ou pour lui, mais avec des raisons, avec des choses précises en tête, parce que la personne, à force de la fréquenter, on finit par apprendre c'est quoi ses problèmes, c'est quoi ses difficultés, ou c'est quoi ses projets, où elle a besoin peut-être d'être éclairée, prier pour moi. Souvent, le monde va dire ça, prie pour moi. Moi, je vous dis une chose. Combien de fois des personnes m'ont dit « Prie pour moi », j'ai dit oui, puis la semaine suivante, je n'ai pas prié pour elle, ou très peu, peut-être des fois un petit peu sur le coup, là. Puis la semaine suivante, oups, on passe à d'autres choses, comme on dit. On ne devrait pas s'engager à dire à quelqu'un « Je vais prier pour toi si tu ne le fais pas ». Mais c'est les Écritures qui nous commandent de le faire. Alors, ce n'est pas quelque chose, on va le faire si ça me tente, puis si ça ne me tente pas, on ne le fait pas. Pas de même, ça marche. Priez aussi pour la restriction du mal dans le monde. On sait que le Seigneur a la capacité de restreindre le mal dans le monde, dans notre propre vie, dans la vie de ceux qu'on connaît, dans la vie de... Alors, on peut demander que le Seigneur restreigne le mal dans la vie du monde, dans certains pays. Je partageais avec Francine... Il existe des cartes de prière qu'on appelle où on a inventorié tous les pays du monde, où on a donné le pourcentage de chrétiens qu'il y a là, les principaux problèmes qu'il y a dans ces pays-là. Et on se devrait d'avoir une carte de prière comme ça et d'intercéder pour les pays, plus particulièrement pour les pays, par exemple, communistes ou les pays musulmans, où il y a parfois une très forte opposition à l'Évangile. Quand Paul disait « Priez pour moi afin que le Seigneur me rouvre des portes », il disait « Priez pour moi afin que quand je vais aller à quelque part, le Seigneur me rouvre des portes ». Alors, il faut le faire d'une façon systématique. Lequel d'entre nous fait ça de façon systématique à tous les jours? Très peu. Il y en a. Alors, autre chose qu'on se doit d'avoir face à la prière, on se devrait de ne pas avoir d'obstacle à l'exaucement de nos prières. Quels sont les obstacles qu'il peut y avoir pour que Dieu n'exauce pas nos prières? Des péchés non confessés, Le Seigneur nous dit de confesser nos péchés, de demander pardon et de rétablir notre relation avec lui. Autre chose, des relations de couple disharmonieuses ou de chicanes, si tu veux. Un couple qui vit ensemble, puis qui passe le temps chicané, même s'il prie Dieu, Dieu dit « Commencez par régler vos problèmes en bas, puis vous adresserez à moi après. » C'est ça que le Seigneur veut. Il veut qu'on apprenne à pardonner les uns les autres. Si on vit en couple et qu'on a des relations qui ne sont pas harmonieuses, le Seigneur, ça peut être un obstacle à la prière. Autre obstacle qui nous est donné dans Jacques, des demandes pour satisfaire nos convoitises. Moi, si je dis à Dieu, même si je marche dans ses voies, puis tout, si je dis à Dieu, je prie que tu me rendes millionnaire, puis je prie que tu me donnes un Cadillac ou un Mercedes, ça, je pense pas que c'est pour son honneur. Ça serait plus pour satisfaire mon ego, mon orgueil. Satisfaire ses convoitises, il faut faire attention à ce qu'on demande à Dieu. Il faut demander des choses à Dieu dans le but de le glorifier, des choses qu'il approuverait lui-même. Je suis certain que le Seigneur accordera jamais à un de ses enfants une Mercedes parce que tu lui demandes. À moins que lui décide que tu en as besoin pour un besoin bien spécifique. Après ça, des idoles dans le cœur. Je lisais un document que j'ai ramassé l'autre jour qui était écrit. Il y avait un pasteur qui avait donné une série de 15 idoles qu'on peut avoir dans nos vies, dans la vie moderne. Quand on les lit un arrêt de l'autre, là, par exemple, il nous dit « Notre famille peut devenir une idole. Notre travail peut devenir une idole. Notre volonté d'avoir absolument progresser dans la vie sociale ou la vie de travail. » Il nommait 15 choses là-dedans et qu'on peut très clairement s'identifier. Par exemple, quelqu'un qui aimerait beaucoup l'informatique, c'est pas un péché d'aimer l'informatique. Mais ça devient un péché si l'informatique vient à prendre la place de Dieu. Si on voulait donner une définition simple de l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Alors, si quelqu'un se dit, j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de lire ma Bible, mais je peux mettre 25 heures à étudier l'informatique. L'informatique est rendue une idole dans sa vie. Parce qu'il prend la place que Dieu devrait avoir et il la remplace par autre chose. On pourrait nommer les 15, c'est pas ça le but ce matin. C'est juste de démontrer que quand on prie Dieu, il peut y avoir des obstacles à l'exaucement. Autre obstacle, ce qu'on appelle la fermeture de notre oreille au cri du pauvre. Le Seigneur, quand il est venu sur la terre, je pense qu'il nous a donné l'exemple, il est le modèle parfait. Hein? Est-ce qu'il s'est fermé l'oreille au cri du pauvre? À tous ceux qui étaient dans un état d'indigence, il en a guéri une gang, il était d'une bonté extrême, même si ce n'étaient pas des personnes qui étaient dans le but de recevoir le salut. Quand il a guéri les lépreux, c'était des pauvres. C'était exclus de la société. Tu avais une apparence physique hideuse. Puis quand les gens s'approchaient de toi, il fallait que tu leur cries « impur, impur » pour pas qu'ils s'approchent de toi. Puis quand le Seigneur il a vu des lépreux, il les a guéris. Alors, on se doit de le limiter dans ce sens qu'on se doit d'avoir un cœur ouvert à chercher à soulager la misère qu'on voit autour de nous. Le plus qu'on peut. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours régler tous les problèmes du monde, comme on dit, là, mais on peut, dans une certaine mesure, parfois, avoir le cœur ouvert aux cris des pauvres. Autre chose, le manque de pardon. Si dans notre vie, il y a des choses, notre conscience nous reproche qu'on a de la misère à pardonner à quelqu'un pour ce qu'il peut nous avoir fait, alors le pardon, c'est quelque chose que le Seigneur nous dit. Il faut pardonner aux autres parce qu'il dit « Si tu ne pardonnes pas, moi, je ne te pardonnerai pas non plus. » Ça ne veut pas dire que tes péchés ne sont pas pardonnés, là, mais je veux dire ta communion avec Dieu va être affectée. Alors ça, puis le doute aussi. Parce que dans Jacques, le Seigneur il dit « Si tu pries puis si tu doutes, ne pense pas rien recevoir du Seigneur. » Quand on prie, il faut le faire avec l'idée que le Seigneur va vraiment exaucer ce qu'on dit. Sixième marque, c'est un témoignage efficace. Supposons que vous êtes le pasteur d'une église, puis que la semaine, il y a du monde qui vous voit à l'hôtel, vous saouler. Il y a du monde qui vous voit courir les jupons, comme on dit, ou toutes sortes d'autres péchés du style, puis que le dimanche, vous oseriez venir vous présenter à évangéliser ou à enseigner la parole de Dieu, je serais, à ce moment-là, si ce serait moi, là, ou quelqu'un d'autre dans l'Assemblée, c'est la même chose, un mauvais témoignage. Mais on dirait, regarde-moi les dons, lui. Il se dit chrétien, gardons la manière qu'il agit. On le voit sortir bien sous des autels. Ça, c'est un péché, mais ça pourrait en être une multitude d'autres. Quand on a une marche chrétienne qui ne correspond pas à ce que les Écritures nous disent, dites-vous une chose. Les inconvertis, si vous leur dites que vous êtes un croyant, ils vont avoir les yeux ouverts grandement pour vous observer, même s'ils ne vous le disent pas. Puis s'ils voient quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas, ils vont avoir le doigt accusateur très rapide. Je peux vous le dire. Ah ah! Tu dis que tu es croyant, mais regarde ce que tu fais. Ils sont très, 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 très rapides. Alors, il faut faire attention pour que notre témoignage soit réel, authentique. Que les gens voient en nous que la grâce de Dieu a eu un effet, qu'on est on devient pas parfait du jour au lendemain, là, oublions ça. Là. Mais le fil conducteur de ta vie devrait être que tu t'améliores sur toutes sortes de ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon, ta relation avec les Écritures, ta relation avec les autres, ta relation avec tes frères et sœurs. Ça devrait avoir un changement réel et authentique. Jean 13, versets 34 et 35. Le Seigneur Jésus lui-même nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » À qui il disait ça? Aux apôtres. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » On lit le verset, mais on ne s'arrête pas à réfléchir à ce qu'il est en train de dire. « Aimez-vous les uns les autres. » Ça, on comprend. « Mais comme je vous ai aimé, oh, la marche est haute, là. » Parce qu'il nous a aimés par ordinaire. « À tous, voyez-vous, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si on n'a pas d'amour les uns pour les autres, puis on passe notre temps à s'entre-déchirer, les gens vont dire, « Hey, viens pas nous parler de ton amour, commence donc par que ça paraisse dans ta vie, on en reparlera après. » Acte 2, versets 44 et 47. « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. » Qu'est-ce que le texte nous apprend? À l'époque, au début, après le départ de Christ, les chrétiens étaient tellement convaincus qu'il fallait partager. Imaginez-vous aujourd'hui, est-ce qu'on on pourrait avoir une conviction de cet ordre-là aujourd'hui? Vendre ta propriété et voir s'il y a des gens qui sont dans le besoin, dans l'assemblée, donner l'argent aux apôtres pour que les apôtres fassent ce qu'ils faisaient à l'époque. Redistribuer la richesse pour pas qu'il y ait d'indigents. C'était... ça prend quelqu'un qui croit vraiment pour faire ça. Je vous en passe un papier, là. Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Autrement dit, le Seigneur nous dit ce qu'on appelle la Grande Commission. Dans Matthieu 28, 19 et 20, on appelle ça les versets de la Grande Commission. La Grande Commission, ça veut dire que Dieu nous a donné une mission, celle de faire connaître son nom, de faire des disciples, les baptiser au nom du Père et du Fils, mais il ne dit pas que ça ne s'arrête pas là. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, la Bible. Un nouveau chrétien, là, il n'est pas un disciple la première journée. C'est un disciple, ça se forme avec les années. À force d'acquérir des connaissances, de vivre des expériences, que Dieu te donne de la lumière pour la compréhension de certains versets, etc. Mais le Seigneur nous donne quand même quelque chose d'important, faut toujours s'en souvenir. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si on décide de lui obéir, et on se doit de le faire, il nous dit,
t'es pas tout seul, mon petit gars, t'es pas tout seul, ma petite fille, je suis avec toi. Faut le croire. Il est là et il nous aide.
Autre chose, ça nous prend une réelle communion. On est rendu à la septième chose, acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voyez-vous, il y avait une persévérance dans certaines activités qui font la base du culte chrétien. La communion fraternelle. Quand on se rassemble, comme on fait ce matin, qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas de la communion fraternelle? Vous êtes mes frères et mes sœurs. Alors, le Seigneur veut qu'on s'assemble parce qu'on reçoit des autres et on donne aux autres. Il n'y a personne qui vient ici qui ne donne pas aux autres. Même si ça ne rend pas compte, on donne et on reçoit chaque fois qu'on vient dans un culte. Hébreux 12, 15. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Maintenant, huitième chose, une forme de gouvernement ecclésial conforme à les Écritures. On est une église, c'est une association de personnes qui font volontairement, ils veulent s'assembler dans le but de faire certaines choses que le Seigneur leur demande. Donc, un gouvernement, c'est de faire les choses, d'administrer le corps de Christ, notre façon d'être, notre église locale, d'une manière qui soit conforme aux Écritures. Alors, dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 13, ça nous dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » Évêque, ça veut dire pasteur. « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. » Il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres, un autre officier de l'Église, il y a deux sortes d'officiers dans les Églises, les pasteurs et les diacres. Ou les anciens, pasteurs et anciens, ça veut dire la même chose. Les diacres doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Alors, les Écritures encadrent la manière dont une Église se doit d'être dirigée. Il y a des qualifications qui sont exigées pour les pasteurs, des qualifications qui sont exigées pour les diacres, et il y a une façon aussi de fonctionner dans l'Église. Quand on lit dans le verset 11, « Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance à la foi en Jésus-Christ. » Alors nous, on croit, d'après l'étude des Écritures, que le gouvernement d'une église, ça doit être congrégationnel. Congrégationnel, ça veut dire que c'est l'église qui prend les grandes décisions, les grandes orientations, contrairement à, disons, un gouvernement épiscopal, qu'on appelle. C'est comme la papauté, il y a comme un pape, des cardinaux, des archevêques, des évêques, des prêtres, des diacres, des sous-diacres. Ils ont allongé la liste. Alors, un gouvernement congrégationnel, ça veut dire que dans les grandes orientations d'une Église, le peuple de Dieu, les membres de l'Église ont un mot à dire. Quand on fait une réunion de l'Assemblée générale, il y a des décisions qui se doivent se prendre. Par exemple, on est en train de peinturer l'Église, donc on avait la décision, est-ce qu'on la peinture, est-ce qu'on la peinture pas, quelle couleur qu'on la met, etc. Est-ce qu'on achète des échafauds, est-ce qu'on le donne à contrat, toutes ces choses-là. Alors, il faut participer, et le gouvernement de l'Église, c'est que c'est pas le pasteur devient le boss puis décide tout. Les gens ont un mot à dire et c'est notre compréhension de la façon dont le gouvernement de l'Église devrait se mener. Romains 15, verset 26. « Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Alors, on voit aussi que la question de l'entraide,
La question des finances dans une église, la dîme, la proportion de notre revenu qu'on donne pour maintenir la bâtisse. Ça coûte quelque chose de maintenir une bâtisse debout. Il y a de l'électricité, du chauffage, de l'assurance. Et on pourrait allonger la liste des papiers, toutes sortes de produits qu'il faut acheter. Alors, pourquoi Dieu veut qu'on donne pour promouvoir, pour entretenir ces choses-là et payer le salaire du pasteur? Normalement, dans les églises, on paye un salaire au pasteur. Et c'est l'ensemble des dons, des contributions, des dîmes, des membres qui font en sorte que ces choses-là peuvent se faire. Alors, 12e, on était rendu à 9e. Une puissance spirituelle dans le ministère. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, le Seigneur, il dit, quand il est parti, il a dit à ses apôtres, vous recevrez une puissance d'en haut, le Saint-Esprit, et on le sait que ceux qui ont lu le livre des Actes, à un moment donné, l'Esprit est descendu, et ils ont commencé, regardez l'ordre que les Écritures disent, et vous serez mes témoins, commence par la ville même dans laquelle ils étaient, Jérusalem. La Judée, c'était ce qu'il y avait alentour de Jérusalem. La Samarie, c'était encore plus. C'est comme des cercles concentriques. Commencez par où est-ce que vous êtes. Il y a une leçon pour nous aujourd'hui. Quand on évangélise, il faut commencer par notre propre famille, nos propres amis, notre propre petit cercle, notre petit Jérusalem à nous. Et ensuite, on agrandit le cercle. Il dit Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on ne peut pas dire, moi, je vais juste annoncer le salut à mes amis. Si nous, on n'y va pas sur le champ missionnaire, il y a une chose au moins qu'on peut faire, c'est les soutenir financièrement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'ensemble de ceux qui sont sur le champ missionnaire, il y a beaucoup de monde qui ont des difficultés. Puis quand on regarde des fois l'argent qu'on gaspille sur des fois des futilités, plutôt que de soutenir l'œuvre de Dieu. Alors, une puissance dans le ministère. La sainteté personnelle des membres, ça bien sûr, c'est un verset qu'on dit, qu'on va redire. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce que le verset est en train de nous enseigner, c'est qu'on ne peut pas se prétendre chrétien et ne pas avoir une progression dans notre vie de sanctification. Parce que c'est bien clair, le Seigneur a dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification ». Quand on est sauvé, normalement, notre désir, c'est de s'éloigner du mal, de se rapprocher de Dieu et d'obéir de plus en plus ce qu'il nous demande dans les Saintes Écritures. Parce qu'aujourd'hui, il y a le phénomène, un peu partout, en Amérique du Nord, en Asie, un peu partout sur la Terre, des gens qui ont reçu le salut ou qui disent l'avoir reçu, mais qui vivent, après leur salut, une vie qui n'avait pas grand changement avec la vie qu'ils menaient avant. C'est pas ça que les Écritures nous enseignent. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, on ne peut pas juste dire « j'ai la foi » et vivre n'importe comment. Parce que c'est une foi fausse. Comme Jacques dit, la foi sans les œuvres est une foi est morte. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, des fois on se demande, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. On ne peut pas se prétendre croyant puis continuer à vivre la vie que les païens mènent autour de nous autres parce que ça ne fonctionne pas. C'est pas vrai. Donc, le souci des pauvres, on l'a vu tantôt, que c'est un amour pour le Christ. Bien entendu, qui peut prétendre qu'il est un chrétien s'il n'aime pas le Seigneur? 1 Pierre 1, versets 6 à 8. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu,
en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Normalement, un chrétien, ça devrait paraître qu'il aime le Seigneur dans sa vie. De quelle façon on le voit si quelqu'un aime le Seigneur? Il vient à sa Bible, il lit sa Bible, il essaie d'obéir à tout ce que le Seigneur lui demande. Il vient à ses cultes, il aime être en compagnie de ses frères et de ses sœurs, et encore bien d'autres choses, mais c'est quelques signes. Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Le Seigneur, dans l'Apocalypse, il nous dit, « Mais ce que j'ai contre toi... » Il parle à une église, il dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Normalement, quand quelqu'un vient au Seigneur, les premières années, ou les premières semaines, ou les premiers mois, souvent on est feu de flamme. Mais avec le temps, parfois, ça descend, ça baisse un peu. Moi, je vous dis, j'ai vu une fois à Montréal, un pasteur faisait 40 ans qu'il était chrétien. Puis j'écoutais son sermon, puis il m'a tellement ému là, que j'en suis venu presque aux larmes. Il y avait la flamme, une flamme telle que ça venait me toucher le plus profond de mon cœur. Puis après, je suis allé le voir, j'ai dit, ça m'a touché votre sermon. Pourquoi? Parce que je sentais votre amour pour le Christ après 40 ans aussi fort qu'au début. Sentais là, que c'était... Et moi, j'aimais ça. J'aimais ça beaucoup. Alors, le Seigneur, il fait un reproche à son Église en Apocalypse. Il dit, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Normalement, notre amour pour le Christ ne devrait pas diminuer avec les années. Devrait, au contraire, augmenter. Parce que, normalement, votre connaissance de Christ devrait avoir... d'une façon telle que vous savez beaucoup plus qui il est, sa puissance, sa force, sa sainteté et bien autre chose encore. Donc, on a amour pour le Christ. Donc, on a vu 12 choses qui font plus qu'une église est plus ou moins parfaite. Maintenant, est-ce qu'on pourrait dire, dans ces domaines-là, nous, on est fort dans certains domaines, mais dans d'autres domaines, on ne vaut pas cher. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. Il faut avoir les 12. Bien sûr, les églises n'ont pas tous les 12 au même niveau, mais notre objectif, notre idéal, c'est d'essayer d'avoir les 12. Alors, la plupart des églises ont tendance à penser que les domaines dans lesquels elles sont fortes sont les plus importants. Supposons qu'une église est très forte dans l'évangélisation. Mais dans d'autres choses, sont très faibles. Là, mais on est fort dans l'évangélisation, donc on est une bonne église, on est pur. Oui, mais y a-t-il juste ça? Il y a le souci des pauvres, il y a tout ce qu'on a nommé les 12 choses. Alors, il faut chercher à avoir de l'équilibre dans les choses que les églises nous demandent, dans ce que Dieu nous demande pour être pur le plus possible. Maintenant, on va parler de l'unité. L'église, son unité. L'unité est un commandement du Seigneur. Le Nouveau Testament met fortement l'accent sur l'unité de l'Église, le but de Jésus. On le voit dans Jean 10, verset 16. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il n'y aura un seul troupeau, un seul berger. Jean 17, on appelle la prière sacerdotale, où le Seigneur s'adresse à son Père en priant pour ses élus de toutes les époques. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement, il parle de ses apôtres, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Est-ce que nous, on est là-dedans? On croit en lui à cause que la parole des apôtres s'est transmise de siècle en siècle. Il priait pour nous, dans l'esprit, dans son esprit, on était là. Afin que tous soient un. Donc, son but, c'était qu'on ait une unité entre nous. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Mais est-ce qu'on peut faire l'unité? Parce qu'actuellement, dans le monde, il y a un grand mouvement qui s'appelle l'écuménisme. L'Église catholique, avec les protestants et avec toutes les dénominations, est-ce qu'on peut faire l'unité en excluant la vérité?
Non.
Non. Alors, on ne peut pas commencer à avoir des activités avec des églises qui prêchent des choses qui sont carrément en dehors de la volonté révélée de Dieu. Dans Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Romains 16, versets 17 et 18, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais à leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et ténèbres? » Souvent, dans une église, vous allez voir, par exemple, un jeune homme, ou des fois c'est une jeune femme, qui va vouloir se partir en affaires. Et elle va vouloir se partir en affaires avec un inconverti. Le verset nous dit, faites attention de ne pas vous mettre sous un joug étranger, de ne pas vous mettre, comme ça dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous savez ce qu'est quoi un joug? Les fameux morceaux de bois, tu avais deux bœufs, tu mettais ça sur le dessus du cou pour qu'ils puissent tirer en même temps. Un joug, c'est ça, c'est quelque chose que tu mets sur tes épaules. Si tu te mets avec un inconverti, tu te pars en affaires, dites-vous, tôt ou tard, ça va tourner à la catastrophe. Parce que l'inconverti, lui, tout ce qui est malhonnête, il s'en fout. Il va le faire. Vous allez dire, oh, mais on ne fait pas ça parce qu'il faut payer nos taxes, il faut faire ci, il faut faire ça. La chicane va pogner, ça va tourner à catastrophe. Je l'ai vu. Non seulement je l'ai vu, mais je l'ai observé. Quelqu'un que je connais très bien, il l'a fait. Je l'avais pourtant averti, mais elle l'a fait pareil. Puis ça l'a vraiment tourné à la catastrophe. Catastrophe monumentale, une affaire... Les détails, je vous les épargne. Mais autre chose, autre exemple de ne pas se mettre. Quelqu'un qui, dans une église, est converti et qui a décidé de sortir avec un inconverti. Au départ, le départ est mauvais parce que deux choses, le Seigneur dit, quand tu es converti, tu devrais te marier uniquement avec un croyant. Parce que si tu ne te maries pas uniquement avec un croyant, tôt ou tard, ça va tourner à la catastrophe. Et ça aussi, je l'ai vu dans ma vie. Je pourrais vous donner des exemples concrets de ça. Quand le Seigneur nous parle, il ne faut pas penser qu'il dit des choses en l'air. Il sait de quoi il parle. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec un infidèle. Un infidèle, c'est simplement un inconverti. Titre 3, verset 10 et 11. Éloigne de toi, par un premier et second avertissement, celui qui provoque des divisions. 2 Jean, chapitre 1, versets 9 à 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. La séparation maintenant, la question est comment on fait pour établir une politique pour savoir avec quelle église on peut collaborer, puis avec quelle église on se doit de ne pas collaborer. Ce qu'on appelle la séparation ecclésiale. Pourquoi le Seigneur nous demande dans certains cas, il faut se séparer d'une église qui vraiment serait allée loin. Alors, la séparation ecclésiale implique la séparation de ceux qui maintiennent des liens ou qui sont en marche avec des églises, des organisations ou des leaders religieux qui n'adhèrent pas aux doctrines fondamentales de la foi chrétienne fondamentale et biblique. Par exemple, si disons qu'il y aurait une église en Rwanda qui dirait « Jésus n'est pas Dieu », est-ce que s'ils nous invitaient à travailler avec eux autres, est-ce qu'on pourrait? La réponse est non. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 14. « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé le pain, gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. » Ce n'est pas que nous n'en eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire du bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Et vous, le Seigneur nous donne les balises, savoir à qui, avec qui on peut travailler. Donnez un exemple rapide. Je ne sais pas si vous connaissez Charles Spurgeon, le grand prédicateur anglais de la fin des années 1900, 18 ans, c'est-à-dire. Il y avait eu, à cette époque-là, il faisait partie de ce qu'on appelait Baptist Union, d'une union d'églises baptistes. Et à l'intérieur de cette union d'églises baptistes-là, ils ont commencé à accepter et à tolérer des professeurs qui enseignaient que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Spurgeon, ça a été le drame de sa vie. Il a fallu qu'à un moment donné, après les avoir avertis à maintes et maintes reprises de ne pas tolérer des personnes comme ça qui enseignaient dans leur milieu, eux répondaient toujours, nous, on est pour la liberté d'enseignement, les professeurs peuvent enseigner ce qu'ils veulent. À un moment donné, il est obligé de trancher et de se séparer d'eux. C'était l'homme le plus connu d'Angleterre, le personnage religieux le plus connu d'Angleterre. Ça a fait, il appelait ça le « downgrade controversy ». C'était que lui voyait qu'il y avait une diminution de la foi dans une union et malgré les avertissements, il ne bougeait pas, il était obligé d'éventuellement se séparer d'eux. Quand on lit sa biographie, il dit que ça a été le drame de sa vie, ça l'a fait pleurer énormément parce qu'il se rendait compte de l'influence qu'il avait en se retirant. Mais le temps, quand on regarde comment ces églises-là qui ont gardé ces fausses affaires-là dans leur milieu, qu'ils ont fini par vraiment s'affaiblir au point que leur témoignage n'avait plus rien. Alors, il était courageux, parce que ça prenait du courage pour faire ça. Il y a eu d'autres exemples aussi aux États-Unis, au début des années 1900. Il y a eu la grande controverse sur la Bible. Alors, il y en a qui disaient que la Bible n'était pas inspirée de Dieu. Il y avait, au Canada, ici, on avait un grand prédicateur à Toronto, qu'on appelle T.T. Shield. Puis aux États-Unis, il y avait Gresham Machen. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer au début des années 1900, toute la bisbille que ça a fait des églises, ces affaires-là. Énorme. Mais ça prend éventuellement quelqu'un qui a assez de guts, comme on dit en québécois, pour se retirer de ces personnes-là. Parce que quand tu commences à dire que la parole de Dieu n'est pas inspirée, quand tu commences à tolérer que des professeurs enseignent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est sûr que tu t'en vas, comme disent les Anglais, « going down the drain ». Tu es en train de couler, tu es en train de perdre ton témoignage. Quelle sorte d'exemple qu'on pourrait vous donner, c'est quoi? Avez-vous déjà entendu l'expression « le libéralisme chrétien » Les libéraux, qu'on appelle les libéraux. Les libéraux, c'est tout simplement des personnes qui vont tolérer toutes sortes de fausses doctrines et qui entraînent d'autres personnes à leur suite. On va vous donner des exemples. Des personnes qui seraient dans des écoles bibliques comme des professeurs qui disent que la Bible n'est pas considérée comme inspirée de Dieu, n'est pas considérée comme infaillible et qu'elle contient des erreurs. Est-ce qu'on pourrait tolérer ça? Non. Deuxième exemple, quelqu'un qui dirait que la naissance virginale de Christ, c'est pas vrai. Que Jésus venu au monde parce que Joseph a couché avec Marie. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est des exemples que les libéraux, qu'on appelle les libéraux en langage théologique, ont introduit une multitude de choses comme ça avec les années. Mais quelque part, il faut réagir face à ces choses-là, parce que si on ne réagit pas, ça va nous emmener à couler avec eux. Un autre exemple, Jésus ne serait pas ressuscité corporellement, alors que les Écritures nous l'affirment. Autre exemple, Jésus, c'était juste un grand enseignant, c'était pas Dieu. Autre exemple, Christ n'est pas Dieu. Autre exemple, l'enfer n'existe pas. Aujourd'hui, il y en a plein, là. En Angleterre, en Europe, aux États-Unis, des personnes qui enseignent ça publiquement ou qui sont des professeurs dans une école biblique qui enseignent ça. Est-ce qu'on peut tolérer ça? Est-ce qu'on enverrait, disons qu'on aurait un jeune tu sais, qui voudrait devenir pasteur, est-ce qu'on l'enverrait étudier là? Posez la question, essayez de répondre. Ou bien non, aux États-Unis, une chose qui se fait de plus en plus, la promotion de l'homosexualité et l'ordination des femmes. On pourrait démontrer que scripturairement, c'est pas ça que les Écritures enseignent. Aux États-Unis, ça a créé des grands problèmes chez les presbytériens, chez les anglicans, parce qu'on a voulu nommer des femmes qui étaient officiellement homosexuelles, alors que les Écritures sont claires là-dessus. Et voyez-vous, c'est tout. Quand on parle d'enseignements qui sont faux, qui sont promus dans des milieux aussi influents qu'une école biblique, si les églises ne réagissent pas en s'ajustant et en coupant leurs liens avec ces gens-là, tôt ou tard, ça va nous amener des problèmes très graves. Et autre problème que les libéraux vont promouvoir, c'est l'union à tout prix. Ah, catholiques, protestants, baptistes, mormons, témoins de Jéhovah, faisons un grand corps et unissons-nous. Comme on a dit tantôt, l'unité, le Seigneur la veut, mais pas aux dépens de la vérité. Tu ne peux pas t'unir avec quelqu'un qui nie des vérités fondamentales du christianisme. Alors, bien sûr, je vous ai donné une liste qui est loin d'être exhaustive, mais pour vous donner une idée, c'est quoi l'enseignement libéral. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Il est important de prier et d'œuvrer en vue d'une plus grande pureté de l'Église. On a notre responsabilité. Bien sûr, si nous devons travailler à la pureté de l'Église, en particulier de l'Église locale à laquelle nous appartenons, nous devons être conscients qu'il s'agit d'un processus et que l'Église à laquelle nous appartenons, quelle qu'elle soit, est dans une certaine mesure impure dans différents domaines. J'ai vu des personnes qui font du magasinage dans les églises, ils se promènent dans une église parce que tout partout où ils vont, ils trouvent toutes des imperfections. Bien sûr qu'il y en a des imperfections, on est tous des pécheurs ensemble. C'est normal qu'à quelque part, il y ait des manquements. Si quelqu'un cherche une église pure à 100%, il n'en trouvera jamais. Il faut avoir à l'idée qu'il faut viser haut, mais savoir que des églises pures à la perfection, ça n'existe pas. Il n'y avait pas d'église parfaite à l'époque du Nouveau Testament, et il n'y en aura pas jusqu'au retour de Christ. Parfaite, mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner notre objectif d'être le plus parfait possible. Deuxièmement, nous devons garder l'unité de l'église locale et l'unité avec les autres églises composées de véritables croyants régénérés autant qu'on le peut. Nous devons refuser de collaborer avec ceux qui nient des vérités fondamentales de la foi. La véritable unité ne peut se faire sans la vérité. L'amour et la vérité sont deux sœurs jumelles qui ne peuvent être séparées. Les efforts qui nient ce fait ne résultent que dans une fausse, dangereuse et illusoire unité. Acceptons de payer le prix pour conserver la pureté et l'unité de l'Église par sa grâce et pour sa gloire. Amen.